France Culture, grand reportage, Aurélie Kiefer.
Les écoles du monde ont été inventées avec le premier objectif de sauvegarder la langue bretonne. Donc l'avantage de l'immersion par rapport au bilinguisme, c'est d'avoir un bain linguistique de meilleure qualité.
Tout le monde a bien conscience que pour faire vivre une langue régionale, il faut qu'il y ait des locuteurs. Pour qu'il y ait des locuteurs, il faut leur apprendre. Parce que la transmission orale ne se fait plus dans les familles. Mais donc, ça va passer par l'école.
Chaque année, des postes restent vacants. Et donc, les enseignants peuvent être des vacataires et non titulaires du concours.
Plus de 70 langues régionales sont encore parlées en France, mais ce patrimoine immatériel est en péril. La transmission familiale a chuté depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et selon un rapport sénatorial rendu en octobre, la plupart de ces langues seront quasiment éteintes d'ici une à deux générations, à moins d'un sursaut politique et social fort. La loi Molac, votée en 2021, avait suscité beaucoup d'espoir dans les milieux militants, notamment parce qu'il s'agissait de la première loi en faveur de l'apprentissage scolaire des langues régionales. Elle a d'ailleurs eu un impact. Les effectifs de primaire ont progressé de 47% en deux ans. Et à la rentrée 2023, 168 élèves de la maternelle au lycée suivaient un enseignement de langue vivante régionale. Mais la chute du nombre de locuteurs se poursuit. Les sénateurs missionnés pour évaluer la loi Molac estiment que l'école publique doit se donner les moyens de former des locuteurs de bon niveau à travers le développement de filières bilingues et immersives. Mais cela suppose un véritable changement de cap. La langue a été le creuset de l'unité du pays, déclarait Emmanuel Macron en 2024 dans un discours à l'Académie française, avant de décrire les langues régionales comme un instrument de division de la nation. La langue de la République est le français, souligne aussi la Constitution. Mais depuis 2008, elle reconnaît les langues régionales comme appartenant au patrimoine de la France. Alors, enseignement public et privé peuvent-ils joindre leurs forces pour maintenir ce patrimoine vivant? L'école peut-elle sauver les langues régionales? C'est un reportage signé Mathilde Cariou. Bonjour Mathilde.
Bonjour Aurélie, bonjour à tous.
L'école gratuite et obligatoire telle qu'elle a été conçue par Jules Ferry n'autorisait que le français et l'enseignement des langues régionales a été essentiellement porté par le privé. Aujourd'hui encore, il y a des freins à l'enseignement de ces langues. Vous l'avez constaté en Bretagne et au Pays Basque.
Oui, le plus important, le plus visible de ces freins, à mon sens, c'est la rupture de parcours. 107 000 inscrits en primaire bilingue en 2023, 230 candidats au bac avec la LLCR langue régionale. Qu'est-ce qu'il s'est passé entre les deux et les élèves décroche à l'entrée au collège, à l'entrée au lycée, ça je l'ai constaté dans tous les établissements où je suis allée. Et puis la réforme du bac, la réforme Blanquer a fait énormément de mal aux langues régionales. Vous allez entendre des lycéens britophones, les élèves de Diwan, nous raconter pourquoi. Il y a aussi les moyens humains, les moyens matériels alloués à l'enseignement des langues régionales. Comme partout, on manque d'enseignants. Alors imaginez trouver des enseignants bilingues, c'est encore pire. Et puis dans ce reportage, on s'est aussi posé la question de la place de l'éducation nationale dans cette transmission, parce que longtemps, vous l'avez dit Aurélie, c'est le privé associatif, le privé militant qui s'en est chargé. Depuis 2021, l'intérêt de l'enseignement bilingue et même plus de l'enseignement immersif est reconnu par la loi Molac. Et pourtant, il n'existe en tout et pour tout qu'une trentaine d'écoles publiques immersives en France.
Deux invités pour cette émission Grand Reportage en direct de Bastia et du studio d'ici RCFM, Gisepou Tourquini, bonjour.
Bonsoir, bonsoir à tous. Si vous me permettez une petite egunon, salud, hola, adi, o bonazer, dans toutes les langues du réseau Escolim.
Oui, le réseau Escolim que vous présidez, c'est la Fédération d'écoles associatives en immersion. Vous présidez également Scola Corsa, la Fédération Corse. Gwenolé Larvol se trouve lui aussi en studio à ICI Braizizel à Quimper. Bonjour.
Demadior, bonjour à vous.
Maître de conférence au département de sciences de l'éducation de l'Université de Bretagne occidentale, vous êtes chargé de mission langue et culture bretonne de l'université. Alors avant de vous donner la parole à tous les deux, je vous laisse écouter le reportage de Mathilde. Nous faisons d'abord un tour dans une école immersive en breton. Nous allons pour cela à Brest, à l'école du Guelmeur, dans une classe de CM2.
Hé, pauvre à drousse, ma fiche. À Guéjomo, à Réal, à Réal, Disken.
Dans la classe de Gaël, il y a des livres en breton, des cartes de la région, un abécédaire bilingue accroché au mur. Sur le tableau, un exercice de maths. La consigne est écrite en français, mais les réponses, elles, fusent en breton.
Lola Neo Maono, Degblois Ameus, Age Semda Oum.
Maono et Aileen, Degblois Ameus, Age Meso et Semda Oum.
C'est quoi votre programme de la journée? Qu'est-ce que vous faites?
En français?
Ouais.
Aujourd'hui, on va faire un atelier avec science où il y a des gens qui vont venir, des gens de métier qui vont venir pour nous présenter les mescages, comme on dit en breton, les mélanges. Et ça s'appelle les petits débrouillards.
On a aussi diphasié les abonnés, ça veut dire on a corrigé les devoirs.
Et du coup, on a fait du BZ gay, qui est du breton, quoi, avec le cahier qu'on utilise. Enfin, il y a un peu de tout, il y a du free furche, c'est des petites enquêtes qu'il faut résoudre en breton, du coup. Il y a du français dedans, il y a du breton, il y a un peu de tout, et on va faire aussi de l'anglais.
Est-ce que vous parlez tout le temps breton entre vous, ou c'est que avec la maîtresse?
De base, on n'avait pas trop le droit de parler français en classe, sauf qu'il y a des trucs qu'on sait pas, on n'est pas non plus expert en breton. Du coup, on parle un petit peu français avec les amis et tout ça.
Et sur la cour aussi, on parle français. Et voilà.
aussi, dans la cantine, ils nous disent de parler breton dans tout le bâtiment de l'école. Même dans la cour, si on peut, même si on le fait pas trop. Et dans la cantine, on n'arrive pas trop, vu qu'on est avec les copains, et on a un peu, on peut dire, la flemme de parler breton.
Ah, parce que c'est pas forcément un réflexe.
Non.
Dans la classe, un petit peu quand même, mais sinon... sinon, on parle pas breton, quoi.
Il y en a qui parlent breton chez eux?
Non, vas-y. Non, moi, je parle pas breton, mais moi, je parle anglais, parce que j'ai un papa qui parle anglais.
Mon père, il parle plus souvent breton que français.
Okay. Et vous aimez bien parler breton ou pas?
Oui.
Ah, oui, quand même.
Sinon, on serait pas là.
Vous avez choisi d'être là ou c'est vos parents qui ont décidé?
Au début, c'était plus mes parents, mais maintenant, je refuse de quitter Edimonde. C'est hors de question.
Et pourquoi? Qu'est-ce que t'aimes bien?
Il y a mes copains et je sais pas, j'ai ici, je me sens bien. Moi, c'est un peu des deux. Enfin, moi, je sais pas trop parce que. En fait, j'ai deux frères qui sont y allés ici déjà et au collège aussi. Du coup, je vais faire pareil. Et à un moment, j'ai failli changer d'école, mais non, j'ai dit non. Pareil, Héloïse, c'est bien ici, on est cool, on est avec nos copains.
Et aussi, en fait, moi, je trouve qu'il y a beaucoup, beaucoup de joie. Et quand on parle breton, par exemple, si on a besoin de dire un truc un petit peu secret, nos parents, ils ne savent pas forcément parler breton. Du coup, on peut parler entre nous parce que vu que j'ai une sœur aussi, on est jumelles. Je sais pas, il y a vraiment une joie que je trouve ici qui est superbe et je veux jamais changer d'école.
Si quelqu'un nous dit qu'on est nul en français, on leur dira « Vous êtes nul en breton ».
Tu es réel ?
Ya.
Gwelet meus trawal. Ya.
Nous aimons au Gaël Kervelava en eau, et Maono Labourat, Erskolu Diwan, Abawi Saïsblois, à Gerbloaman, Maon Ganner Strolat, Saitek Bugel Semdao, Erskol Diwan, Arguelmer et Brest. Donc, je suis Gaël Carvela, je travaille dans les écoles Diwan depuis 7 ans. Et cette année, je suis à l'école Diwan du Guelmer à Brest avec 17 élèves de CM2.
C'est quoi la différence entre une école Diwan et une école bilingue?
C'est l'immersion. Dans l'école en immersion, Diwan, on utilise tout le temps, pour tous les apprentissages, la langue bretonne. Toutes les matières enseignées le sont en breton, à l'exclusion du français et des langues étrangères. Qui commencent, le français commence en CE1 et l'anglais en CE2. Et donc la différence c'est ça, c'est aussi des écoles dont toutes les classes sont en breton. Et donc ça permet d'avoir aussi cette langue qui est parlée aussi dans les moments périscolaires. Donc les récrés, la cantine, la garderie. Les avantages, c'est que le cerveau va être baigné vraiment dans cette autre langue. Il n'y a pas de coupure. Leur vie en dehors de l'école va être en français. Enfin, la société autour de nous est en français. Donc nous, c'est ça qu'on essaye de voir, c'est d'essayer de mettre quand même du breton, même en dehors de la classe, c'est-à-dire aussi dans le couloir, dans la cour, et qu'il existe aussi en dehors de l'école.
Est-ce qu'il y a des matières qui sont un peu plus galères à enseigner en breton?
comme ça, oui, par exemple, les sciences, je trouve que c'est plus... Mais bon, après, moi, je me considère encore comme débutante. Donc, les sciences, par exemple, c'est un peu plus compliqué parce qu'on n'a pas forcément tout le matériel pédagogique qui est traduit en breton. Donc, soit on fait avec des choses un petit peu vieilles, mais alors, c'est plus trop la façon d'enseigner, ni le matériel qui donne envie. Alors, on doit, nous... faire la traduction, mais alors on est là aussi, on n'a pas envie de mal traduire. Faut quand même, la science par exemple, c'est des termes précis. Donc voilà, ça je peux dire que c'est un peu plus difficile par exemple. Forcément, on a un certain engagement, nous, en tant que prof chez D1, où ben oui, c'est quelque chose qu'on doit faire en plus. Après, on a quand même aujourd'hui, quand je vois les enseignants qui partent maintenant en retraite, qui nous disent « Oh là là, mais quand on a commencé il y a 40 ans, il n'y avait pas de livres en breton, pas d'albums pour les enfants, etc. » Aujourd'hui, on a du matériel pédagogique qui est traduit par les services de... Donc c'est TESS, c'est comment, un département de Canopée hein, qui est relié au ministère. Donc, et que c'est gratuit pour les écoles en plus, pour les écoles bilingues comme pour D1. Donc on a le matériel en maths, de la littérature... On a plein de matériel à notre disposition quand même. Mais par exemple, les sciences, bof, pas trop. Voilà.
Ok. Ali Abren Reolen Ag Erhelrier.
Okay. Cette école du Gelmer existe depuis 1977, depuis la création du réseau D1. Aujourd'hui, il regroupe 48 écoles primaires réparties sur toute la Bretagne. Elles sont gratuites, laïques et associatives, rappelle Goulren Bigère, le directeur de l'école de Brest.
Les écoles D1 ont été inventées avec le premier objectif de sauvegarder la langue bretonne. Donc, faire en sorte que des élèves, des enfants qui passent via l'école D1 deviennent des locuteurs au quotidien, par ailleurs, après, lors de leur vie adulte. Donc l'avantage de l'immersion par rapport au bilinguisme, c'est d'avoir un bain linguistique de meilleure qualité, avec une exposition à la langue qui est beaucoup plus soutenue que dans des écoles à parité horaire, et donc de maximiser la potentialité de devenir un locuteur ou une locutrice à l'avenir, tout au long de la vie après. Ça, c'est les premiers avantages que nous, on voit... initialement dans la création de l'école. Mais après, sur les avantages ou les intérêts, il y en a beaucoup. Hein. Là, je pense tout de suite à l'ouverture d'esprit, par exemple. On sait que ça travaille sur des zones de développement du cerveau qui développent l'empathie, qui développent la compréhension de l'autre, qui développent des compétences sociales et de réflexion sur soi-même et sur les autres, des compétences sur les émotions, les capacités à se décentrer. Pour comprendre une situation, nous on a un fonctionnement aussi avec les familles, on a un fonctionnement associatif où les parents sont très associés au fonctionnement de l'école. Et ce côté associatif amène les enfants aussi à avoir des fonctionnements de groupe qui sont assez forts. Un côté presque familial même, les enfants qui ont été dans des écoles D1 en général ont un cercle d'amis proches qui est très étendu et avec des liens affectifs qui sont très forts.
Qui sont vos élèves? Parce que j'imagine que tout le monde ne met pas son enfant à D1.
S'il y avait vraiment un critère commun quasiment à tous les parents, c'est des personnes pour qui l'éducation et l'instruction ont une réelle importance. Et puis, on a aussi beaucoup de parents qui viennent de profs, éduques, un peu de tous ces milieux-là qui recherchent sûrement de la bienveillance aussi à l'égard de leurs enfants, le côté associatif, qui est important aussi de pouvoir participer, de pouvoir peut-être mieux suivre la scolarité de leurs enfants, parce que les enfants passent beaucoup de temps à l'école. Et puis aussi des parents qui sont d'origine étrangère, et pour qui forcément le multilinguisme est important, et qui sentent bien que le bilinguisme favorise l'épanouissement, favorise la réussite scolaire, etc.
Et pourtant, il y a de moins en moins d'élèves.
Et pourtant, il y a de moins en moins d'élèves, c'est vrai. Et ça demanderait être vraiment creusé, vraiment interrogé. Il y a de toute façon une baisse structurelle du nombre d'élèves en termes de démographie. Pour le reste, j'ai l'impression qu'on attire moins d'élèves qui venaient d'un peu plus loin. C'est aussi le fruit ou la conséquence d'une installation de filières bilingues. Alors la ville de Brest a une forte implication dans le breton et la culture bretonne, et eux de leur côté ils développent des filières bilingues dans leurs écoles publiques, donc il y a quasiment dans tous les quartiers de Brest maintenant des écoles publiques bilingues, Et une hypothèse assez forte, c'est que des élèves qui seraient venus chez nous auparavant parce qu'il n'y avait pas l'offre bilingue dans leur quartier, ne le font pas parce que pour des problèmes logistiques, tout simplement de transport, et voilà, sachant que nous, on est gratuit, on est laïque, on est ouvert à tous et à toutes, donc c'est pas une question de coût.
Vous avez combien d'élèves ?
Actuellement, on a 110 élèves ici et 136 sur notre site.
En tout, à la rentrée 2025, 2500 élèves sont scolarisés en primaire dans le réseau D1. Mais dès que l'on passe dans le secondaire, le nombre d'inscrits chute de manière drastique. Ils ne sont plus que 854 au collège et seulement 265 au lycée. Plusieurs explications à ce décrochage. Parfois, il n'y a pas de collège D1 dans le secteur. Encore moins de lycées, il n'y en a que deux sur toute la région, donc ça implique d'aller à l'internat. Et puis, il y a les examens. Jusqu'en 2019, les élèves pouvaient passer certaines épreuves du bac en breton, notamment l'histoire géo ou les mathématiques. Depuis la réforme Blanquer, ça n'est plus possible et ça change beaucoup de choses pour les élèves que nous avons rencontrés au lycée D1 de Carré. Nous sommes avec les premières stressées à l'approche du bac blanc.
Alors, des maths, Jawakir Huelon, avec lycée de Kenta.
Des maths, Varnoz Divi, Gwazglaz, avec lycée de Kenta en IBS.
Des maths, Lilouen Bouneg et Ovarno, à lycée ADZ et Kenta classe M1.
Alors, est-ce que vous pouvez me dire, sur les épreuves du bac, qu'est-ce que vous pouvez passer en breton, qu'est-ce que vous devez passer en français?
Tout est en français, à part une épreuve de breton, mais ça, je crois que c'est dans le contrôle continu. Mais sinon, ouais, tout est en français, contrairement au brevet, où on avait le choix entre... Enfin, personnellement, on avait le choix entre un sujet en breton et un sujet en français. Là, je crois que tous les sujets seront en français, on n'a pas le choix.
C'est chiant, quoi. Nous, on apprend tout en breton, on fait plein d'efforts, juste pour se retrouver à avoir tout en français après.
C'est beaucoup d'efforts pour finalement tout terminer en français. Enfin, ça n'a pas d'intérêt.
Bah, c'est compliqué, parce que... On n'a pas le vocabulaire, on a...
Tout ce qui est pour justifier, etc. Faut qu'on trouve les mots en français, etc. Et c'est
vrai que, autant les maths, des fois, il y a des mots qui sont assez similaires. Par exemple, les probabilités, ça va être probablentes en breton. Mais d'autres mots comme, Devera. Ça va, je crois, dérivation. Oui. Bon, ça va encore. Mais là, je ne sais pas si on va pouvoir vous en trouver, mais il y a des mots, c'est pas du tout les mêmes.
Histoire AGGSP, je pense que AGGSP, ouais, du coup, AGGSP, en spécialité, il y a beaucoup, beaucoup de vocabulaire à apprendre et je ne connais même pas un tiers en français. Quoi.
Ou SS aussi. Ouais. SS, il y a pas mal de par cœur et beaucoup de mots à apprendre avec leur signification, donc savoir les deux, ça fait beaucoup.
Ça vous stresse ?
Oui, ça ajoute, c'est sûr, un stress, surtout que, par exemple, si on n'arrive pas à traduire un mot, on se dit c'est bête, enfin, s'il était en breton, le mot, ça se trouve, j'aurais réussi à faire un exercice, et c'est vrai que c'est dommage qu'on peut perdre des points par rapport à ça.
Surtout que
c'est le bac, quand même, enfin, tout le monde en parle, autant le brevet, un peu moins, mais là, le bac, ça devient sérieux, quoi. On devient un peu grand.
Je me permets d'intervenir. Là.
Ronan Ménardeau, enseignant en langue bretonne.
Mais si je me souviens bien, un de mes collègues de maths, en terminale, en fin d'année, leur donne un vocabulaire bilingue, justement, pour être sûr qu'il n'y ait pas de problème, que les élèves ne soient pas bloqués par juste une affaire de traduction. Je comprends après ce que vient de dire Jawa, je crois, il y a peu de temps. Le jour du bac, vous n'êtes pas forcément, vous voyez, dans un état d'esprit très serein. Et je pense que le stress peut être une explication au fait que sur le coup, alors qu'on connaît parfaitement la traduction d'un mot, sur le coup, on ne va peut-être pas la trouver parce qu'il y a la pression de l'examen qui est énorme. C'est aussi un des résultats de la réforme du baccalauréat. C'est la pression constante mise sur les élèves. Et je pense que là, elle la ressent d'autant plus. Mais ouais, alors pour l'histoire géopolitique, il faudrait confirmer, mais je pense que le collègue fait pareil. En tout cas, pour les maths, en général, le collègue enseignant de spécialité maths en terminale donne aux élèves une sorte de vocabulaire de base avec les traductions. Mais au Coms, c'est compliqué parce qu'avant la réforme Blanquer, les élèves pouvaient donc rédiger, je ne vais pas dire de bêtises, donc de mémoire, l'examen d'histoire-géographie en breton et l'examen de mathématiques. Ce qui faisait que c'était ouvert en fait à l'ensemble des élèves. C'est ça qui me paraissait pertinent. C'était aussi, comme il a été dit là, une manière de montrer les compétences qu'il ou elle avait pu acquérir lors de leur scolarité en breton. Alors aujourd'hui, le fait est que par le contrôle continu, bah effectivement, je pense que quand nos élèves passent des examens durant l'année, c'est en breton, mais ça reste finalement un peu en vase clos, vous voyez, on est un peu entre nous. Les seuls qui finalement ont, comment dire, l'occasion de bien montrer ce qu'elles ou ils ont pu apprendre en breton, ce sont les élèves qui font la spécialité breton. Il faut savoir que dans mon cours, j'ai 8 élèves. Donc vous voyez, on se retrouve avec quand même une ultra-minorité qui est là pour montrer qu'elle a pu acquérir énormément de compétences en breton. Et ça, c'est quand même un peu dommageable, je pense, pour les autres. Alors qu'avant, l'examen de breton était proposé à l'ensemble des élèves, quoi. Donc là, on a rétréci le champ d'action, si vous voulez.
Alors que justement, dans la réforme Blanquer, cette spécialité a été proposée pour pouvoir maintenir les langues régionales au bac.
Ouais, mais en fait, c'est vrai que je comprends aussi les élèves. Faut pas rêver, quelle que soit l'idée qu'on ait. Qu'est-ce que vous allez faire avec du breton simplement après le baccalauréat? Vous pouvez continuer des études à l'université de Rennes, à l'université de Brest. Actuellement, le monde britophone pourra vous ouvrir à, mettons, a priori des emplois dans le monde associatif, ce qui signifie beaucoup de précarité, des salaires pas forcément mirobolants. Donc je pense qu'à un moment aussi, l'engagement militant pour le breton a ses limites. Faut avouer. Vous pourriez travailler dans des crèches, par exemple, en breton. Vous pourriez travailler dans des radios associatives. Et sinon, qu'est-ce qui vous reste? Eh ben, l'enseignement, faut pas rêver. Qui aujourd'hui a envie d'être enseignant? Vous voyez? Donc, ça rétrécit quand même un peu le champ des possibles. C'est ça que je trouve dommage. Et pour vous prouver ça un peu de manière très concrète, donc actuellement, ils peuvent changer d'avis. Sur mon groupe de 8 élèves en terminale, j'en ai 2 qui pensent continuer des études de breton à la fac de Rennes ensuite. Voilà. Je pense que oui, peut-être que l'idée, c'était de valoriser les langues dites régionales. Après, vu la manière dont la réforme Blanquer a été menée au pas de course, Et je pense aussi, vu les choix que les élèves sont amenés à faire, qui sont, je pense, parfois des choix par défaut, il y a peut-être aussi la pression de la famille, ce que je peux comprendre. Je pense qu'effectivement, à l'heure actuelle, dans l'esprit d'un lycéen ou d'une lycéenne, c'est peut-être pas le breton, vous voyez, qui va leur venir en premier, quoi, malheureusement.
Ars une vise autre et menébulante, nous affouenne au tibulant, y'a rafraisse en du, de don à ben, d'un aime des noms, voilà ma, plus au col, plus au méo, plus à jaune, pété peine, par allure.
Ces ruptures de parcours, ce manque de perspective en langue régionale, c'est l'un des principaux freins à l'apprentissage. Il y en a un deuxième qui est vraiment structurel, c'est le manque de moyens financiers dans les écoles immersives. L'an dernier, à Diwan, il manquait 500 000 euros pour boucler l'année. À la Bressola, dans les Pyrénées-Orientales, 400 000 euros. Ces écoles privées sous contrat dépendent des financements de l'État, de la région et des communes via le forfait scolaire. C'est une obligation, mais dans les faits, certaines mairies ne payent pas. Guilhem Nivet est le président de la Bressola, l'école immersive en catalan.
80% de communes ne payaient pas. Et ça depuis la loi Molac, puisque la loi est très mal rédigée en fait. Et le problème, c'est que dans la loi, il est indiqué que sont redevables du forfait scolaire les communes qui ne proposent pas d'enseignement des langues régionales. Et on a un problème sur l'interprétation de ce que c'est l'enseignement des langues régionales, puisque beaucoup de communes proposent de l'initiation, c'est-à-dire 1h30 de catalan par semaine. Et alors nous, on a dû faire un travail avec beaucoup de communes, tenter de s'exonérer du paiement de ce forfait scolaire en invoquant cette initiation. Donc là, chez nous, c'est pas le cas dans toutes les régions, hein, mais chez nous, la DAZEN et le préfet ont tranché, on dit que l'initiation, ça vaut pas enseignement. Donc sauf à ce que les communes proposent un enseignement bilingue, les communes sont tenues de payer le forfait communal. Et après, au-delà de simplement l'esprit de la loi et l'interprétation qu'on fait de le terme enseignement, il y a aussi la bonne volonté des services de l'État qui, parfois, ne relancent pas les communes, ne nous soutiennent pas. Et dans ce cas, c'est impossible d'aller, il faudra aller au tribunal administratif.
Est-ce qu'il y a certaines communes qui refusent par positionnement politique parce que c'est un projet qui ne leur convient pas?
Alors, on en a eu quelques-unes. Hein. On en a eu des communes qui disent « moi, je suis pour le catalan, mais je fais déjà suffisamment ». On a des communes qui nous disent qu'ils n'ont pas signé de dérogation, donc c'est le choix des parents, c'est à eux de l'assumer. On a des positions comme ça, un petit peu dogmatiques. Mais bon, là, nous, étant donné que le préfet a joué le jeu ici dans les Pyrénées-Orientales, qui a mis en demeure les communes de payer, qui a fait des médiations et qui est allé jusqu'au mandatement d'office, toutes ces positions-là ont été solutionnées. En tout cas, nous, dans le département, c'est le cas. Je sais que c'est pas le cas des Basques, je sais que c'est pas le cas de certaines des Bretons. Les pires, je crois, dans la pire situation, elle est en Alsace, où vraiment il y a des communes qui ne répondent même pas aux sollicitations de paiement des forfaits communaux. Et après, il y a un autre souci aussi, c'est que ça, c'est sur le principe du paiement. Mais une fois que les communes ont accepté le principe du paiement, il y a aussi le montant. Parfois, il y a des communes, je sais que c'est le cas en Alsace notamment, qui ont versé simplement 50 euros pour l'année. Ce qui ne correspond absolument pas au coût réel de la scolarisation de l'enfant.
C'est quoi le coût réel?
La moyenne départementale chez nous, elle est à 350 euros par enfant, donc dans le primaire, et 1300 pour un enfant dans la maternelle.
Les solutions que vous avez trouvées l'année dernière, elles sont pérennes ou pas? Ou l'école est quand même en danger? Il était question de fermer des classes l'an dernier.
Oui, oui. Alors la solution, en fait, on a gagné du temps. On a gagné un an et demi de stabilité économique, puisqu'on a eu beaucoup de subventions exceptionnelles de l'autre côté de la frontière, notamment des Diputations de Barcelone, Girona, Lleida. La Generalitat de Catalogne aussi nous a alloué une subvention exceptionnelle. Après, on a eu des subventions exceptionnelles de la région, Occitanie, 80 000 euros, le département des Pyrénées-Orientales, 30 000 euros. Donc ça nous a donné de l'air. Et clairement, on veut utiliser, mettre à profit ce temps qu'on a gagné pour assainir notre modèle économique qui repose beaucoup trop sur les subventions. Ça, on en est conscient. Donc la situation sur le long terme devrait s'assainir. En tout cas, c'est le chemin que ça prend.
Est-ce qu'un changement de statut pourrait régler la question? C'est ce que me disait la directrice de Diwan, que l'idée, ça serait de devenir un groupement d'intérêt public.
Oui, parce que du coup, on aurait des moyens à louer les paratas qui seraient considérablement plus importants. L'épée de Damoclès qu'on a au-dessus de la tête, c'est que depuis la décision du Conseil constitutionnel de 2021, on nous a dit que notre modèle était anticonstitutionnel. Donc il faut travailler soit la modification de la Constitution, soit une précision, puisqu'on a dans la Constitution cet article 2 qui nous dit que la langue de la République est le français, point. Et il faut ensuite aller à l'article 75-1 pour nous dire que finalement nos langues sont parties du patrimoine. Donc on ne sait pas trop bien se positionner, et le Conseil constitutionnel pour l'instant a une lecture hyper rigoriste de la Constitution. Donc tant qu'on aura cette épée de Damoclès au-dessus de la tête et qu'on n'aura pas des garanties de pouvoir continuer à pouvoir faire vivre ces modèles-là sous cette forme-là, on sera toujours en insécurité.
Pendant longtemps, la transmission des langues régionales a été l'apanage de l'école privée. L'État estimait que les quelques familles qui voulaient apprendre le breton, le catalan, le basque, pouvaient le faire dans ce cadre-là, et donc que ça n'était pas son rôle. Les premières filières bilingues sont apparues à l'école publique dans les années 80. Elles se sont vraiment développées dans les années 2000 sur le modèle de la parité horaire. Mais les écoles publiques immersives, elles restent encore très rares. Il en existe une trentaine uniquement dans le Pays basque. Nous avons rendez-vous à celle d'Asquin, à une dizaine de kilomètres de la frontière espagnole. Il pleut, alors quelques parents se réfugient sous le préau en attendant la sortie des classes.
Vous vous appelez comment ?
Jen.
Et vous êtes la maman de ?
Ibai.
Pourquoi est-ce que vous l'avez inscrit ici ?
C'est son père qui voulait. C'était intéressant, il a fait la crèche en basque, donc c'était le but de continuer aussi.
C'est important pour vous que ce soit une école publique ou pas ?
Oui, moi j'ai été que dans le privé et ça s'est très très mal passé, donc c'était le but qu'il soit dans le public. Et en plus, l'école est bien, on a eu des bons retours, donc voilà, c'était...
La priorité c'était le public et le basque, c'est un plus quoi.
Ouais, et puis la maternelle c'est en immersion, donc ça suivait la crèche et en plus il a eu la chance de faire le CP en immersion aussi, donc c'est top.
Je m'appelle Geoffrey Giraud. Je suis papa de Soren Giraud qui est en CE1 et avant j'ai eu deux autres enfants plus grands qui sont au collège. Ma femme étant prof dans le public, la question s'est pas posée, ça c'est sûr. Non, après ce qui était important, nous on vient de l'école publique, donc c'était tout naturel, l'école elle est bien située. Puis en plus, mon premier étant dyslexique, d'apprendre la lecture en basque vu que les sons sont les mêmes, c'est beaucoup plus simple. Donc il a eu beaucoup moins de difficultés à apprendre à lire en basque qu'en français. Et après, la gymnastique est plus simple, de passer d'abord en basque et après de passer en français.
C'est la sonnerie de la récréation.
Oui, c'est la
sonnette. Et c'est un élève qui fait...
Beñat Biscay, je suis enseignant ici à l'école d'Asquin et j'ai les CP en immersion et des CE2 qui se rajoutent à nous.
Je suis Serge Verdoux, le directeur de l'école et j'enseigne également en français au CM2.
Le système immersif ici, il est intégré et digéré, on va dire, au niveau de la société. Donc en fait, que maintenant ça vienne dans l'école publique, c'est plutôt une très bonne nouvelle aussi, puisque chez HK c'est créé pour répondre en fait à un besoin que l'école publique ne fournissait pas. Voilà. Donc ça a été créé par des militants, etc., sur un modèle associatif privé qui a été sous contrat plus tard. Mais le but de chez HK a toujours été finalement que leur modèle devienne l'école publique, en fait. Et ils ont répondu à un besoin en le créant eux-mêmes, mais c'était le but, l'école gratuite, l'école pour tout le monde, et ce n'était pas du tout dans un modèle d'école privée, élitiste ou comme ça. C'était autre chose à la base dans le projet. Et maintenant que la loi Molac et ses conséquences permettent dans l'école publique que ces modalités pédagogiques puissent exister, ben on va dans le bon sens.
Parce que longtemps, on a quand même dit la langue de l'école publique, c'est le français, l'école de la République. Ça s'entrechoque quelque part.
Il y a eu quelques tentatives, effectivement, et récemment. Il me semble que le Conseil constitutionnel avait retoqué la loi Molac.
Cette partie sur l'enseignement immersif, oui.
Oui, cette partie-là. Bon, de là à dire que la langue régionale ici, elle ne vient pas en opposition du tout à la langue française. C'est pas... il y a des enseignants qui travaillent en français, d'autres en basque. Et je vois au quotidien, et tout le monde travaille ensemble, il n'y a pas de rivalité, il n'y a pas d'opposition, il n'y a pas de choses comme ça. Je ne suis pas certain que ce soit un enjeu, ou que ce soit une... Non, il ne s'agit pas de ça. Tout le monde a bien conscience que pour faire vivre une langue régionale, il faut qu'il y ait des locuteurs. Pour qu'il y ait des locuteurs, il faut leur apprendre. Parce que la transmission orale ne se fait plus dans les familles, ou plus assez. Mais donc, ça va passer par l'école, comme tout apprentissage. Et voilà, les choses se feront assez simplement, en réalité. Et pas de clivage que l'on pourrait s'attendre. Moi, je ne le constate pas.
Elementuak, bai. Hori jandigu txua, maikak? Zik usten duze kolore bezala da?
Urria,
irania eta horia. Zer bezala beraz?
Txua
bezala, ados. Eta beste pertsonaia aldiz?
Il reste une problématique qui traverse autant le public que le privé, où trouver les enseignants pour toutes ces classes bilingues. Il en manque tous les ans, mais l'éducation nationale ne dispose pas de données complètes sur le nombre de professeurs capables d'enseigner en langue régionale, c'est-à-dire avec un niveau B2, voire C1. Des formations dédiées existent à l'INSPE depuis 2016. Au forum d'orientation du lycée Ravel à Saint-Jean-de-Luz, les enseignants débarquent avec des sacs entiers de brochures à la recherche de potentiels candidats.
Alors, je vous écoute. Vous êtes en terminale ?
Oui.
Ouais, d'accord. Et oui, et vous avez quoi comme spécialité ?
Moi, j'ai NSI LSE espagnol.
D'accord.
Moi, j'ai HGSP et HLB.
D'accord. Bonjour, Argia Olsomendi, professeure des universités à l'Université Bordeaux-Montaigne et directrice du département d'études basques. Pour le master premier degré, nous avons environ entre 10 et 12 étudiants par année, avec la spécificité pour le basque d'avoir donc des étudiants qui préparent le concours pour enseigner dans le privé confessionnel, dans le privé qu'on appelle immersif ou associatif chez HK et le public.
10 par an, est-ce que c'est suffisant pour répondre aux besoins dans l'enseignement bilingue ?
Alors non, puisque chaque année, des postes restent vacants. Et certains, donc il y a bien souvent depuis là plusieurs années, davantage de postes que de lauréats. Et donc, on est obligé de faire appel à des vacataires non lauréats du concours et non titulaires pour combler les besoins. Et que ce soit chez HK, dans l'enseignement public ou dans l'enseignement catholique, les enseignants peuvent être des vacataires et non titulaires du concours. Et donc, les élèves ne vont pas se retrouver sans professeur, mais ce ne seront pas des titulaires.
La situation, elle est la même que dans le reste de l'éducation nationale ou spécifique à la langue basque ? Est-ce que c'est accentué parce que c'est bilingue ?
Alors non, la situation est assez similaire, même si chaque langue régionale a ses spécificités. La difficulté est donc le niveau requis, puisque pour enseigner une langue régionale, il faut avoir un niveau... Alors pour le basque, on demande un niveau C1, et pour la plupart des langues régionales, c'est le niveau qui est requis dans la langue. Ben, les locuteurs font défaut, c'est assez difficile d'arriver à ce niveau-là pour un étudiant. Alors pour les natifs, c'est plus facile, mais pour les autres, peut-être plus difficile, notamment pour les néolocuteurs, pour lesquels la langue n'est pas leur langue familiale. Je vous donne ça, c'est uniquement... Donc ça, c'est la LEA avec le basque, mais toutes les LEA sont organisées de la même manière.
Vous leur dites quoi ? Que c'est un peu quelque chose qui leur incombe de transmettre cette culture de la langue basque ?
En tant qu'enseignant ? Bien sûr, l'enseignement de la langue basque fait partie donc des choix qui ont été effectués pour augmenter le nombre de locuteurs au Pays Basque. Et donc, devenir enseignant de langue basque va permettre aussi de contribuer à augmenter ce nombre de locuteurs, même si on sait que finalement l'école n'est pas suffisante pour former et créer de nouveaux locuteurs.
Mais ça, comment ça se fait ?
Parce que c'est une langue minoritaire, une langue minorisée, et dans la société, il leur manque des endroits, des lieux où ils pourront pratiquer cette langue, et cette langue devient une langue scolaire. C'est-à-dire que l'école contribue à la revitalisation linguistique des langues régionales ou minoritaires, mais le chemin à parcourir est encore très très long, puisque bien évidemment des choses ont été réalisées depuis donc les années 70 pour les Cachetola et les années 80 pour le public, mais on est loin d'une réussite totale.
C'est finalement tout l'enjeu pour ces défenseurs des langues régionales. Comment faire en sorte que ça ne reste pas la langue de l'école ? Dans les réseaux immersifs, on encourage les enfants, leurs familles, à fréquenter la langue en dehors du milieu scolaire, via les associations, la musique, la littérature. Certains poussent même jusqu'à faire de la langue régionale celle du quotidien. C'est le cas de cette famille que nous avons rencontrée à Landerneau, dans le Finistère.
Bonjour.
Autour de la table du goûter, trois générations, Guirec, 6 ans, Tanguy, son père et son grand-père, Jean-Pierre.
Moi, je suis cavalou, là.
Non, mais pas le
salsier. D'après ce que je comprends, dans cette maison, on parle breton tout le temps.
Oui.
Oui, c'est la langue de la famille, quoi.
Parce que mon père parlait breton. Sa langue maternelle était le breton. Il était orphelin de père à 5 ans. Sa mère lui parlait breton. Avec son frère, il parlait breton. Et c'était la langue de la famille.
Votre père, il fait partie de ce qu'on appelle la génération sacrifiée.
Oui, tout à fait. Oui.
Ça veut dire quoi ?
Pour moi, c'est assez dramatique. Parce que arrivé à l'école, tout d'un coup, la langue devient interdite. Le symbole s'impose et on punit. Le symbole, c'est un objet qu'on accrochait au cou des enfants, donc l'instituteur l'accrochait au cou du premier enfant qu'il voyait parler breton dans la journée, charge à lui de transmettre le symbole au premier de ses petits camarades qui parlait breton. Et donc le symbole circulait comme ça, et celui qui l'avait le dernier dans la journée était puni. Et en même temps, on expliquait aux parents qu'il ne fallait pas parler breton aux enfants, parce que bon, c'était à peine bon pour parler aux animaux, mais pour le reste, il fallait qu'ils soient des gens civilisés, donc ils parlent le français. Un esprit colonisateur, dominateur, il fallait l'uniformité. Moi, ce que je trouve encore plus grave dans cette affaire, c'est que l'État français n'a jamais émis le moindre regret de ce qui a été fait, n'a jamais adressé la moindre excuse à tous les peuples qui ont subi ça. Enfin, j'ai jamais pu digérer ça, quoi.
Et donc, vous avez décidé de parler breton à vos enfants ?
Oui, parce que je voulais transmettre. Il y a la langue, mais il y a la culture qui va avec. C'est, tout ça est important, ça ne doit pas disparaître. Et puis, j'avais l'assurance que le fait de connaître deux langues ne les diminuait pas, contrairement à ce qu'on pouvait raconter ici et là. Mais moi, j'ai entendu ça. Quand on a créé l'école publique bilingue ici à Landerneau, certains instituteurs ont fait des démarches auprès des parents pour leur expliquer que ça allait encombrer le cerveau de leurs petits, qui aurait ensuite des difficultés d'apprentissage à l'école.
Il y a beaucoup de gens ici qui ne pensent pas que c'est possible. Ok, ils apprennent le breton pour eux, puis ils ne le transmettent pas à la génération suivante. Et puis on recommence, en fait. Ils mettent leurs enfants bilingues, puis on recommence. On a des cas comme ça où il y a trois générations, où il y a deux, trois générations, il n'y a pas de transmission, puis c'est le boulot de l'école. Puis on recommence. Parce que quand la transmission elle est cassée, c'est plus dur de la remettre en place.
Mais comment on fait pour transmettre le breton et que ce soit normal quand tout le reste de la vie est en français?
Ben justement, il l'est pas pour nous. Quand on va au Fesnance, quand on va au bar, quand on se déplace, on va quasiment tout le temps trouver des gens avec qui on va être capable de parler breton. Après, à Landerneau, on est à environ 20% d'élèves qui sont scolarisés en bilingue. C'est-à-dire que quand on va dans une activité, ben en fait, on est quasiment sûr d'avoir d'autres élèves qui parlent breton. C'est un signal important de voir que hop, on peut entendre du breton dans la rue. Ah bah oui, c'est comme à l'école. Guirec, je sais qu'il a été marqué par un truc qui peut sembler tout bête. Mais il était dans le train, et dans le train, les annonces, elles se font en breton depuis 6 mois. Pour nos enfants, c'est important. Les panneaux, ça a un impact, mais les panneaux, ils les lisent pas.
Sur les panneaux, Tanguy ne peut pas s'en souvenir. Mais en 1992, à Landerneau, on a mis l'intégralité de la signalétique et des noms de rue en bilingue. Donc c'est le même phénomène qu'on entend le breton dans le train. Toutes ces choses-là qui peuvent paraître inutiles, c'est tout à fait le contraire. C'est en fait une forme d'officialisation un peu rampante. C'est écrit, voilà, donc ça a une existence.
Vous arrivez à faire en sorte que ça ne soit pas uniquement la langue de l'école?
Oui, bah, il faut, parce que sinon c'est une catastrophe. Et si la langue n'est pas vécue dans la société, ça reste, c'est du latin, quoi.
Estade uxika txe maten, aurkako haukan gabe, zoriona ez da hemen, aina ise.
Nik ez dakit zer nahi dudan, ametsa edo be, eta batzutan nire naiz, goz bete.
Ez da gehiot tristurik, zoriona erreixa da, ez da gehiot tristurik. Guk antzi behar genuke, batzutan antzi behar genuke.
L'école peut-elle sauver les langues régionales? Un reportage de Mathilde Cariou avec Annie Brault à la réalisation.
Grand reportage, Aurélie Kiefer.
Avec nous pour commenter et prolonger ce reportage, Gwenolé Larvol, maître de conférence en sciences de l'éducation à l'Université de Bretagne Occidentale, et Gizipu Tourkini, président du réseau Escolim. Alors j'ai d'abord envie de vous demander à tous les deux de nous dire à titre personnel la nature de votre attachement à votre langue régionale et le sens que ça a pour vous de la transmettre. Peut-être d'abord Gwenolé Larvol.
Oui, merci. Merci d'abord pour la qualité de ce reportage qui était très très bonne. Mon lien à la langue bretonne, bon, déjà c'est un lien qui remonte, c'est un lien familial, c'est-à-dire que ma grand-mère est née dans les années 1930 et c'était sa langue maternelle. Elle a appris le français à l'école. Elle a aussi appris à détester sa langue maternelle à l'école. Et quand elle a eu des enfants, quand mon père est né, elle l'a élevé en français. Au début des années 80, quand moi j'avais 2 ans, j'avais l'âge d'être scolarisé, mes parents ont voulu m'inscrire à Dimonde, justement, et c'est ma grand-mère qui a dit que si mes parents m'inscrivaient à Dimonde, elle n'irait pas me chercher à l'école. Elle détestait tellement sa langue maternelle que pour elle, il était impossible qu'un enfant l'apprenne. Et à moi, c'est plus tard, c'est jeune adulte que j'ai appris la langue bretonne, et du coup, en visant à devenir enseignant en breton, ma grand-mère s'est dit que l'enseignement, c'était quand même quelque chose, premier enseignant dans la famille. Mmh. Et là, nous avons pu changer de langue tous les deux. Et
aujourd'hui, vous êtes réconciliés autour de la langue.
Tout à fait. Aujourd'hui, c'est ma langue du quotidien, aussi bien au niveau familial qu'au niveau professionnel ou dans ma socialisation, en dehors de tout ça.
Oui, vous avez un enfant et vous avez tenu à lui apprendre le breton.
Tout à fait. J'ai une petite fille de 3 ans et nous l'élevons en breton. Et ma foi, je trouve ça assez merveilleux au quotidien de l'entendre, elle, parler breton et de l'entendre parler français aussi quand c'est nécessaire, parce que bah, finalement, on est tellement dans une ambiance de français que finalement, elle apprend le français presque malgré elle.
Giuseppe Tourchini, qu'est-ce qui vous fait vibrer, vous, dans la langue corse?
Tout. Tout dans le sens où c'est la langue de l'affectif, c'est la langue du rapport à son territoire, bien évidemment à ses aïeux, à ceux qui vous ont précédé, au village, à la ville qui vous a élevé, qui a contribué à faire de vous ce que vous êtes, qui vous a transmis toutes ces valeurs. Et je ne l'oppose absolument pas au français, comme a dit le grand écrivain algérien, le français, notre prise de guerre. Donc, le problème, c'est que le français soit une langue unique, qu'elle ait été imposée de cette manière, qui est une langue commune, c'est une excellente chose, en l'occurrence le français, mais je vous assure qu'avoir une langue à côté de la langue, je dirais, nationale, c'est quelque chose d'extraordinaire, c'est-à-dire que vous conciliez l'aspect identitaire de votre langue. Et en ce qui concerne le corse, il y a un aspect véhiculaire qui est un avantage énorme. C'est-à-dire qu'en parlant une langue latine, la Corse est au centre du bassin méditerranéen. Elle a été une des premières régions touchées par la romanisation. La langue corse, bien qu'étant profondément identitaire et qu'elle dise, comme toutes les langues régionales, leur terroir, qu'elle produise un rapport au monde qui est spécifique, qui est unique, elle est en même temps véhiculaire, dans le sens où parler une langue latine, c'est s'ouvrir à 1,3 milliard de locuteurs sur la planète.
Alors, vous n'opposez pas, vous le dites, le corse au français, mais il y a des réticences hein, qui s'expriment à l'encontre des langues régionales. Elles s'appuient sur la crainte que les régionalismes ne fragilisent l'unité de la nation. Qu'est-ce que vous répondez à ça ?
Je réponds qu'il y a une peur historique atavique en France, et je peux, parce que j'essaye de comprendre les mécanismes qui font que l'on s'acharne à la disparition de ma langue, de nos langues, qui sont autant de richesses incomparables, je me dis que ce pays, la France, qui est le plus rétrograde en Europe sur ces questions d'enseignement, d'épanouissement, de reconnaissance, de maintien des langues régionales, a une peur de la déstructuration. Bon, il y a des Celtes au nord-ouest, il y a des Germaniques au nord-est, il y a des Occitans au sud de la Loire, il y a des Basques dans leurs montagnes, il y a des Provençaux, il y a des Auvergnats, etc., des Savoyards, et puis il y a les Corses de l'autre côté, la Méditerranée, et tout ça est perçu comme autant de dangers pouvant remettre en cause l'unité nationale. Bon, moi ce que je dis, c'est que le français, il s'est imposé, c'est la langue commune, c'est un acquis historique, et il faut sereinement apaiser toutes ces questions et bien comprendre que ce qui arrive aux langues régionales, qui sont déclarées en grand danger par l'UNESCO, va immanquablement arriver à court terme, aux Français. C'est-à-dire que des langues qui se croient protégées par leur statut national, si elles ne prennent pas conscience qu'en défendant leur propre limès, leur propre territoire périphérique, et en défendant les langues régionales, elles seront immanquablement mangées à la même sauce, c'est-à-dire celle d'un hégémonisme linguistique plus fort qu'elles, eh bien, tant qu'on ne prendra pas conscience qu'il faut maintenir une écologie linguistique, une diversité, qui est un devoir impérieux de l'humanité, on s'orientera vers un monde uniforme et mortifère.
Mais alors, Gwenolé Larvol, on entend régulièrement parler du niveau scolaire qui baisse en France, et notamment de la maîtrise du français qui est en baisse. Donc, est-ce que rajouter l'enseignement d'une langue régionale, ça ne risque pas de se faire au détriment des fondamentaux ?
Oh, ça tient beaucoup du fantasme. En fait, c'est un peu des allants de soi. On se dit ça, si on rajoute, ça va être plus compliqué. Mais en fait, toutes les observations qui sont faites en France, mais j'ai envie de dire partout dans le monde, parce que je crois que c'est les deux tiers des enfants qui naissent dans des contextes plurilingues, et que montrent bien qu'Homo sapiens est fait pour être plurilingue, justement, et que c'est plutôt le monolinguisme qui a un accident de parcours. On voit qu'au contraire, ce plurilinguisme-là a des bénéfices cognitifs, des bénéfices sociaux, qu'il est bon pour l'individu, pour l'enfant, mais qu'il est aussi bon pour la société. Et ce qu'on voit, on a parlé tout à l'heure des écoles immersives au Pays Basque, qui sont en immersion, si je ne me trompe pas, jusqu'au CP. Elles ont été mises en place à titre expérimental et elles ont montré que ce n'était pas du tout au détriment de la maîtrise du français, bien au contraire.
Justement, sur la question de l'immersion, comment vous expliquez que l'Académie de Bordeaux, donc des Pyrénées-Atlantiques, soit la seule à s'être emparée de la possibilité d'enseigner en immersion ? Est-ce que c'est de la frilosité de la part des autres, de la part de l'éducation nationale ?
C'est presque l'inverse, en fait. Ce qui se passe, c'est qu'historiquement, au Pays Basque, il y avait un enseignant, une langue. Donc, en fait, il n'y avait pas possibilité pour les enseignants d'aller au-delà de la parité. Cette parité, en fait, en Bretagne, elle est toute relative, parce qu'elle est surtout dans les textes. Et ce qu'on voit, c'est que les enseignants qui sont les plus à l'aise dans leur métier, qui sont les plus à l'aise linguistiquement, ils sont plus autour des trois quarts, des 75% en breton, 25% en français, voire même 90-100% en maternelle. Donc, en fait, c'est l'organisation qui fait que le Pays Basque a dû officialiser cette organisation. Là où elle existe depuis de nombreuses années de manière non officielle dans les classes en Bretagne.
Et donc la transmission des langues régionales, ça vous paraît vraiment être le rôle du public ?
Alors le rôle du public, oui, le rôle du service public, mais pour moi, ce que font les écoles du réseau Escolim, c'est un travail de service public, et c'est bien malheureux que il y avait eu par exemple un protocole de passage sous statut public de Diwan en 2001, avec une volonté de Diwan de passer sous statut public, et finalement c'était les syndicats d'enseignants qui avaient fait appel du Conseil d'État, et qui avaient déclaré Diwan anticonstitutionnel. Donc pour moi, de fait, ce que le travail que fait Diwan, c'est un travail de service public et les autres associations. Et à mon goût, ce que fait l'enseignement public devrait essayer de s'en rapprocher le plus possible, c'est-à-dire en généralisant l'immersion telle qu'elle est faite à Diwan et en mettant aussi en place des politiques linguistiques d'établissement, notamment dans le secondaire où là il y a une situation vraiment compliquée dans l'enseignement public.
Gisepou Tourkini, sur le rôle de l'école publique, est-ce que ce qui est possible dans des réseaux militants avec des parents très impliqués peut vraiment être reproduit dans de bonnes conditions dans l'école publique ?
Écoutez, moi ce que je sais, c'est que il y a 5000 langues aujourd'hui sur la planète. C'est l'UNESCO qui nous apprend que si on ne fait rien, d'ici la fin du siècle, c'est-à-dire d'ici 75 ans, vous vous rendez compte, la moitié auront disparu, rayé de la carte définitivement, donc il ne restera plus que 2500 langues. Et ce phénomène va aller croissant, et c'est un phénomène exponentiel. Bon, où l'on prend conscience qu'il faut sauver la diversité, où on va vers une disparition quasi totale de toute cette diversité, ce qui serait un drame irréparable. Donc, ce que l'on sait, c'est que seul l'enseignement immersif produit des résultats aptes à faire des locuteurs épanouis. Lorsque vous avez posé la question de savoir si une langue peut interférer sur l'autre et avoir des effets négatifs, c'est tout le contraire qui se passe. Si on regarde les lycées de Carré en Bretagne et celui de Bayonne au Pays Basque, les lycées donc du réseau Diwan et du réseau CHK, ils sont régulièrement classés tous les ans dans les 20 meilleurs lycées de France pour ce qui concerne les résultats au bac CQFD. Autre chose, quand bien même un élève est en immersion totale dans une école, son temps de parole, d'expression dans cette école immersive à 100%, ne représente jamais que 11% de son temps d'expression et relationnel sur l'année. Ce sont les chiffres officiels de l'OLPB, l'Office linguistique du Pays Basque. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut multiplier tous les espaces où l'on rend à ces langues qui ont été combattues d'une manière acharnée pendant des années par le monolinguisme, il faut leur donner les moyens qui ont servi à les combattre. Donc c'est l'école, c'est la généralisation dans l'école, c'est encore une fois l'avancée apaisée vers un plurilinguisme, c'est bien évidemment la valorisation dans la société, dans les médias, dans le monde économique, dans les relations internationales, c'est une lisibilité, c'est une valorisation des élèves. Vous les avez entendus qui tout à l'heure, ces jeunes Bretons nous dire, on fait des efforts pendant des années, puis total, arrivé au bac, patatras, tout ça ne sert à rien.
Mais
là, c'est le contraire qu'il faut faire.
Est-ce qu'il y a réellement une forte demande, parce qu'on entend que les communes sont pas toujours prêtes à verser le forfait scolaire?
Alors, le monde politique est souvent en retard par rapport à, je dirais, à l'opinion publique. Une toute récente étude de l'IFOP, vous avez dû l'avoir passée, nous apprend que dans plusieurs régions de France, hein, un sondage réalisé sur des milliers de Français, les gens se déclarent à 73% attachés à leur langue régionale et à leur enseignement et à leur valorisation.
Mais à ce moment-là, comment est-ce que vous expliquez l'érosion du nombre d'élèves ? Il a augmenté jusqu'en 2023. On a vu plus 47% d'inscriptions en bilingue entre 2021 et 2023. Et là, depuis deux ans, la courbe s'inverse. Est-ce qu'il y a eu un pic d'intérêt pour l'école bilingue ?
Il me semble que c'est une question structurelle liée à Diwan, qui est liée à la difficulté de faire vivre des écoles Diwan qui sont pas financées par les municipalités, par exemple, telles que l'enseignement public. Donc il y a vraiment une question structurelle, et si on regarde l'ensemble des chiffres sur l'enseignement en breton, on voit qu'il y a une progression. On est passé à plus de 20 000 élèves scolarisés. Alors c'est une progression qui va pas assez vite, hein, pour compenser la perte des locuteurs âgés, mais il n'y a pas aujourd'hui de perte d'élèves scolarisés en filière bilingue, en tout cas.
Et alors, il y a une grande diversité, évidemment, de situations parmi les 70 langues régionales parlées en France. Est-ce que c'est l'utilité d'une langue qui va faire qu'elle va se maintenir? Je pense aux catalans et aux basques qui sont parlés de l'autre côté de la frontière et qui se portent relativement bien. Ou est-ce qu'en fait les arguments sont bien au-delà?
Alors, je pense que c'est un tout. Hein, vous avez commencé votre échange avec nous en nous demandant ce qui nous reliait, ce qui nous attachait si profondément à nos langues. Bien sûr que la dimension affective, elle est fondamentale. À cet affectif, bien évidemment, se joint la culture, la connaissance patrimoniale d'un terroir. Vous savez, une langue, c'est pas uniquement une grammaire, une syntaxe et des règles graphiques. Une langue, c'est encore une fois une représentation du monde. Chaque langue est un univers qui décrit en même temps le local et l'universel. Donc il y a cet argument-là. Et ensuite, pour répondre à la seconde partie de la question, une langue doit survivre et doit vivre. Déjà, l'argument même qu'elle est une langue suffit grandement et à soi-même. Ensuite, il faut qu'il y ait une valorisation de cette langue. Je le disais tout à l'heure, valorisation sociétale. Vous savez, en Corse, on dit que o francese è la lingua di ubane. Le français est la langue du pain. C'est celle qui donne à manger. Et c'est ce que disait tout à l'heure cette famille de Bretons qui parle leur langue à la maison. On nous a fait croire pendant des années que les patois locaux n'avaient aucune valeur. Bon, il faut valoriser ces langues. Le corse et les autres langues ouvrent à des horizons extraordinaires. L'enfant bi-plurilingue a une plasticité cérébrale qui est maintenant prouvée par de nombreuses études scientifiques. On sait qu'il est, y compris, plus efficient, aussi paradoxal que ça puisse paraître, mais ça n'est pas finalement, quand on réfléchit un peu, meilleur dans d'autres disciplines, y compris les disciplines scientifiques. Et puis, ça a été dit dans vos excellents reportages, il y a un rapport au monde, aux autres, au corps social, qui est différent à un moment, une époque de l'histoire que nous vivons actuellement, où l'on voit se multiplier des tentations, des pulsions hégémoniques, néocolonialistes, néo-impérialistes, qui personnellement m'inquiètent beaucoup. Et j'ai la prétention de dire que les langues régionales et la lutte pour la diversité est, à mon avis, le meilleur antidote à ces dérives qui sont en train de menacer l'humanité tout entière.
Alors, je voulais poser une dernière question à Gwenolé Larvol, mais je suis désolée, je vois que le temps file. Donc, je mentionne simplement le fait qu'il y a également des initiatives pour relancer la transmission familiale. Et vous, Gwenolé, vous êtes le directeur du comité scientifique du défi des 1000 familles. L'objectif étant de parler breton aux enfants pour retisser le lien intergénérationnel dans 1000 familles sur les 10 prochaines années. Merci beaucoup à tous les deux, Gwenolé Larvol, Gisepou Tourkini. Merci à ICI RCFM et Braille Zizel de vous avoir accueillis. Le grand reportage de cette semaine, L'école peut-elle sauver les langues régionales, était signé Mathilde Cariou. Réalisation Annie Bro, à la technique, à Bastia, Jean-André Gianecchini, à Quimper, Laurent Leclerc et à Paris, Guirec Corbin. Au web, Caroline Beneteau, documentation, Karine Huyghe et Véronique Le Faller. Pour retrouver et partager cette émission de la rédaction, rendez-vous sur franceculture.fr ou sur l'appli Radio France.